Ramuncho, première partie, chapitre 14. Il y avait une grande partie de paume arrangée pour dimanche prochain, à Eribiag, un village très éloigné du côté des hautes montagnes. Ramuncho, Arrochcoa et Florentino y joueraient contre trois célèbres d'Espagne. Ils devaient ce soir s'exercer, se délier les bras sur la place des Césars. Et Gracieuse, avec quelques autres petites filles de son âge, était venue s'asseoir sur les bancs de granit, pour les regarder faire. Jolies toutes, des airs élégants avec leurs corsages de couleur pâle, taillés d'après les plus récentes fantaisies de la saison, et elles riaient, ces petites, elles riaient. Elles riaient parce qu'elles avaient commencé de rire sans savoir de quoi. Un rien, un demi-mot, de leur vieille langue basque, dit sans le moindre à propos, par l'une d'elles, et les voilà toutes pâmées. Ce pays est vraiment un des coins du monde où le rire des filles éclate le mieux, sonnant le cristal clair, sonnant la jeunesse et les gorges fraîches. Arrochcoa était là depuis longtemps, le gant aux yeux au bras, lançant seule la pelote que de temps en temps des enfants lui ramassaient. Mais Raymond Florentino, à quoi donc pensait-il? Comme ils étaient en retard! Ils arrivèrent enfin, la sueur au front, la démarche pesante et embarrassée. Et comme les petites rieuses les interrogeaient, avec ce ton moqueur que les filles, lorsqu'elles sont en troupe, prennent d'ordinaire pour interpeller les garçons, ils se rirent, et chacun d'eux frappa sa propre poitrine qui rendit un son de métal. Par des sentiers de la Gisune, ils revenaient à pied d'Espagne, bardés et alourdis de monnaie de cuivre à l'effigie du gentil petit roi Alphonse XIII. Nouveau truc de contrebandier. Pour le compte des Chouas, ils avaient changé là-bas, à bénéfice, une grosse somme d'argent contre les pièces de billon, destinées à être ensuite écoulées au père, pendant les foires prochaines, dans différents villages des Landes où les sous espagnols ont communément cours. À eux deux, ils rapportaient dans leurs poches, dans leurs chemises, contre leur peau, une quarantaine de kilos de cuivre. Ils firent tomber tout cela en pluie, sur l'antique granit des bancs, au pied des petites très amusées, les chargeant de le leur garder et de le compter. Puis, après s'être essuyé le front, avoir soufflé un peu, ils commencèrent de jouer, de sauter, se trouvant tout léger à présent et plus leste que de coutume, cette surcharge en moins. À part trois ou quatre enfants de l'école qui couraient comme des jeunes chats après les pelotes égarées, il n'y avait qu'elles, les petites, assises en groupe perdu tout en bas de ces rangées de gradins déserts, dont les vieilles pierres rougeâtres avaient en ce moment leurs herbes et leurs fleurettes d'avril. Robes d'indienne, clair corsage blanc ou rose, elles étaient toute la gaieté de ce lieu solennellement triste. À côté de Gracieuse, Panchica d'Ergué Garatz, une autre blonde de 15 ans, qui était fiancée à son frère Arrochcoa, et allait l'épouser sans tarder, car celui-ci, comme fils de veuve, ne devait pas de service à l'armée. Et, critiquant les joueurs, alignant sur le granit les rangées de sous empilés, elle riait, elle chuchotait avec leur accent chanté, avec toujours les finales en ra et en ric, faisant rouler si alertement les airs qu'on eût dit à chaque instant des bruits d'ailes de moineaux dans leur bouche. Eux aussi, les garçons s'en donnaient de rire et venaient fréquemment, sous prétexte de repos, s'asseoir parmi elles. Pour jouer, elles les gênaient, elles les intimidaient trois fois plus que le public des grands jours, si railleuses toutes. Ramuncho apprit là de sa petite fiancée une chose qu'il n'aurait jamais osé espérer. Elle avait obtenu l'autorisation de sa mère pour venir aussi à cette fête d'Eribiag et assister à la partie de paume et visiter ce pays qu'elle ne connaissait pas. C'était arrangé qu'elle irait en voiture avec Panchica et Madame d'Arenganatz, et on se retrouvait là-bas. Peut-être même serait-il possible de combiner un retour tous ensemble. Depuis tantôt 2 semaines que leur rendez-vous du soir était commencé, c'était la première fois qu'il avait l'occasion de lui parler ainsi dans le jour et devant les autres. Leurs manières s'en trouvaient différentes, plus cérémonieuses d'apparence, avec en dessous un très suave mystère. Il y avait longtemps aussi qu'il ne l'avait vue si bien, et de si près au grand jour. Or, elle embellissait encore beaucoup à ce printemps-là. Elle était jolie, mais jolie. Sa poitrine devenait plus ronde, et sa taille plus mince. Son allure gagnait chaque jour en souplesse élégante. Elle continuait de ressembler à son frère, les mêmes traits réguliers, le même ovale parfait. Mais la différence de leurs yeux allait s'accentuant, tandis que ceux d'Arrochcoa, d'une nuance bleu-vert, qui semblait fuyante par elle-même, se dérobaient quand on les regardait, Les chiens, au contraire, prunelles et cils noirs, se dilataient pour vous regarder fixement. Ramuncho n'en connaissait de semblable à personne. Il en adorait la tendresse franche, et aussi l'interrogation anxieuse et profonde. Bien avant qu'il se fût fait homme et accessible au du prix des sens, ses yeux-là s'étaient emparés de sa première petite âme d'enfant, par tout ce qu'elle avait de meilleur et de plus pur. Et voici maintenant qu'autour de tels yeux, la grande transformeuse énigmatique et souveraine avait mis toute une beauté de chair, qui appelait irrésistiblement sa chair à lui pour une communion suprême. Ils étaient fort distraits, les joueurs, par le groupe de petites filles, des corsages blancs et de corsages roses, et ils rient eux-mêmes de se voir jouer plus mal que de coutume. Au-dessus d'elle, qui n'occupait qu'un petit coin du vieil amphithéâtre de granit, montaient des rangées de bancs vides un peu en ruine, puis les maisons des César, si paisiblement isolées du reste du monde. Puis enfin la masse obscure, encombrant de la Gisune, emplissant le ciel et se mêlant à d'épais nuages qui dormaient contre ses flancs. Nuages immobiles, inoffensifs et sans menace de pluie, nuages de renouveau, qui étaient d'une couleur tourterelle et qui semblaient tièdes comme l'air de cette soirée. Et dans une déchirure, bien moins haut que la cime dominatrice de tout ce lieu, une lune ronde commençait de s'argenter à mesure que déclinait le jour. Ils jouèrent, au beau crépuscule jusqu'à l'heure des premières chauves-souris, jusqu'à l'heure où la pelote envolée ne se voyait plus assez dans l'air. Peut-être sentaient-ils inconsciemment tous que l'instant était rare et ne se retrouverait plus. Alors, autant que possible, ils le prolongeaient. Et pour finir, on s'en alla tous ensemble, portait à Ichua ses sous d'Espagne. En deux parts, on les avait mis dans deux grosses serviettes rousses qu'un garçon et une fille tenaient à chaque bout, et on marchait à mesure en chantant l'air de la fileuse de lin. Comme ce crépuscule d'avril était long, clair et doux, il y avait déjà des roses et toutes sortes de fleurs devant les murs des vénérables maisons blanches aux auvents bruns ou verts, des jasmins, des chèvrefeuilles, des tilleuls embaumés. Pour Gracieuse et Raymond, c'était l'une de ces heures exquises que plus tard, dans la tristesse angoissée des réveils, on se rappelle avec un regret à la fois déchirant et charmé. Oh, qui dira pourquoi il y a sur terre des soirs de printemps, de si jolis yeux à regarder, et des sourires de jeunes filles, et des bouffées de parfums que les jardins vous envoient quand les nuits d'avril tombent, et tout cet enjôlement délicieux de la vie, puisque c'est pour aboutir ironiquement aux séparations, aux décrépitudes et à la mort.